Devenir pour la première fois, je suis un peu honteux de le dire, mais première fois à Poitiers, au lieu d'études médiévales pourtant. Cette invitation me donne l'occasion de me replonger dans une recherche qui dure depuis longtemps et à laquelle j'ai malheureusement peu de temps à consacrer. Donc c'est l'occasion de faire le point pour moi, et puis ça a été l'occasion de faire le point pour moi, et ensuite de vous raconter tout ça. J'ai pris une décision qui m'ennuie un peu parce que j'en ai pas du tout l'habitude, mais pour différentes raisons, j'ai jugé bon d'écrire un texte et de vous le lire plutôt que de faire une improvisation comme je fais d'habitude. Alors voilà, c'est moins drôle, c'est moins peut-être moins intéressant, mais peu importe. Deux petites précisions pratiques. Je ne donnerai évidemment pas en cours d'exposé les références aux documents que je citerai, aux textes que je citerai, mais si l'un ou l'autre d'entre vous, l'une ou l'autre d'entre vous est intéressé par ces textes, je lui enverrai très volontiers le texte de la conférence avec son appareil de référence. Les traductions françaises sont soit des traductions que j'ai faites pour la circonstance, soit des traductions connues, un peu retouchées de temps en temps, pour les rendre plus explicites ou plus adaptées au courant de l'exposé. Très bien, alors, allons-y. J'ai usé une partie de ma vie de chercheur à explorer les Alpes occidentales entre le XIIIe et le XVIe siècle. De cette manière alors courante qui consistait à comprendre dans leurs interactions l'économie, la démographie et l'évolution de la société. Puis, fatalement, m'est venue l'envie de relire tout cela sous un point de vue plus culturel et je me suis lancé dans une enquête sur les manières d'organiser le temps et de le mesurer dans les sociétés alpines entre le XIIIe et le XIXe siècle. Je suis sorti de mon Moyen-Âge pour aller jusqu'à l'époque des grands tunnels transalpins et de l'arrivée du chemin de fer qui a tout changé dans ces problèmes de l'histoire du temps. Au cours de cette recherche, j'ai rencontré souvent, sans y prêter grande attention, des chants de coqs. Ils proclamaient l'heure dans de petites chroniques urbaines ou familiales, mais aussi dans des testaments. La foudre est tombée d'ailleurs d'un texte dans lequel le dominicain Albert le Grand mobilisait les nouveaux savoirs pour répondre à la question suivante. Comment le coq sait-il qu'il est l'heure de chanter ? Cette trouvaille m'a ramené à mes premières amours académiques avec une Summa Philosophiae du XIIIe siècle, anonyme, mais assurément anglaise et franciscaine, sujet il y a 34 ans de mon mémoire de maîtrise. Il a fallu que je vienne à Poitiers pour faire ce petit calcul qui m'a un peu effaré. Je suis donc parti en quête d'autres animaux doués pour la mesure du temps. Des coups de hasard, puis une démarche plus systématique, m'ont permis de découvrir peu à peu une extraordinaire ménagerie antique et médiévale, peuplée d'animaux censés savoir le temps et parfois capables de le faire connaître. D'animaux au comportement variable selon l'âge, la saison, l'état de la lune, le jour ou la nuit, voire l'heure. D'animaux enfin doués pour la prévision et pour l'organisation. Mon terrain d'enquête est vaste, partant du socle constitué par Aristote, Pline, Claude Hélien, passant par les relais du haut Moyen-Âge, s'étendant à travers les bestiaires, les encyclopédies, les textes littéraires ou moralisants, cherchant enfin, de la Renaissance à l'aube des Lumières, la progressive extinction d'une manière de voir la nature. D'une façon générale, ma recherche porte sur les vivants et le temps dans l'histoire des sciences de la vie, durant l'Antiquité, le Moyen-Âge et leur prolongement. Je souhaite, dans cette enquête, d'abord dresser l'inventaire des liens que les savants anciens ont vus entre les animaux et le temps. Ensuite, il faut établir comment ils ont expliqué ces liens et les ont intégrés à la cohérence de leur système du monde. Et enfin, il serait judicieux de se demander pourquoi ils s'intéressaient à de tels phénomènes et de comprendre ce qu'ils attendaient de ces connaissances. Difficile question, pluriel, lorsqu'on les pose à un monde que nous avons perdu, caractérisé par la description et l'explication de l'univers comme une création voulue et entretenue par un Dieu tout-puissant. Je souhaite aussi, dans l'avenir, lier mon enquête aux études actuelles sur la chronobiologie animale. Comparer les faits et les interprétations proposées par les anciens avec ce que l'on sait aujourd'hui donnerait un moyen d'évaluer assez objectivement la qualité de leurs observations. Je tiens à bien préciser que pendant l'heure que nous allons passer ensemble, je ne me hasarderai pas sur ce terrain. Je rapporterai les dires de mes auteurs tels que je les ai recueillis, sans me prononcer sur leur degré d'adéquation avec ce que nous savons aujourd'hui. J'ai organisé ma conférence autour de trois regards portés sur les animaux et sur leur lien avec le temps. Le premier est, plus ou moins bien relayé par les agronomes, le regard de l'éleveur, qui doit connaître et comprendre les rythmes de l'animal afin, si nécessaire et si possible, de les modifier. Le deuxième regard est celui du théologien et du moraliste, pour qui l'animal a, dans le projet divin, deux autres fonctions. Exalter la puissance et la subtilité du Créateur et proposer aux humains des modèles moraux. Le troisième regard est celui du naturaliste qui récolte, dans les livres et parfois dans la nature, des informations sur des comportements animaux liés au temps et qui s'efforce d'expliquer tout cela en se servant de l'outillage conceptuel disponible. Abordons ce premier regard, le regard de l'agronome. Alors, pourquoi commencer par là ? Parce que la domestication et l'élevage ont représenté l'occasion la plus ancienne d'acquérir des connaissances précises et intimes sur les biorhythmes animaux, puis de les appliquer. Il est vrai que la chasse avait offert une première occasion d'observer le temps des bêtes, mais il ne s'agissait que de connaître les moments de vulnérabilité de la proie. Pour un paysan, le fait d'avoir ses bêtes sous la main, comme affiliées à la maisonnée, au lieu d'avoir à les chasser, modifie radicalement l'organisation de son temps, notamment en matière de déplacement. De plus, la domestication a, plus étroitement que jamais, connecté entre elles les horloges animales, humaines, animales et végétales. Les historiens du néolithique et de l'âge du bronze assistent à cette mutation, voient se développer ses conséquences et se construire une nouvelle architecture du temps. Les médiévistes aussi voient changer le temps agropastoral et parfois même beaucoup, comme c'est le cas dans les Alpes occidentales au XIVe et au XVe siècle. Le paysan éleveur a une préoccupation fondamentale. Faire fonctionner d'une manière harmonieuse les horloges biologiques des plantes, des bêtes et des humains. Pour cette raison, les traités d'agronomie antiques et médiévaux, ainsi que modernes, regorgent d'informations sur le cycle annuel des activités agropastorales et sur les questions de temps très variées, comme le juste moment du labour, des semailles, du herçage, de la récolte et de l'utilisation des produits, comme aussi le temps de la reproduction ou celui de l'alimentation des bêtes, lui-même très lié aux biorhythmes végétaux. Même s'ils ne sont pas du tout des paysans, mes agronomes ont donc beaucoup à dire sur une certaine chronobiologie ancienne. Comme d'autres auteurs, ils mettent en évidence d'harmonieuses correspondances entre les rythmes naturels des animaux domestiqués et les besoins de leur maître. Cependant, leur contribution la plus intéressante concerne la modification de certains rythmes animaux afin de mieux les ajuster aux besoins des humains. Je vais essayer de vous montrer cela à travers un exemple très caractéristique, la détermination du moment idéal de la procréation, ou pour adopter un langage plus vétérinaire, de la saillie, en fonction de différents paramètres. Aristote pose en naturaliste une règle assez générale. Je cite, « Ayant en vue la nourriture de leurs petits, beaucoup d'animaux s'accouplent dans la saison appropriée. » Une autre formulation la complexifie un peu. Je cite, « Pour le dire dans l'ensemble, c'est au printemps que les animaux ont le plus d'ardeur à l'accouplement. » Pourtant, tous ne s'accouplent pas au même moment, mais ils le choisissent en vue d'élever leurs petits à des moments convenables. Si je comprends bien, leur nature profonde pousserait tous les animaux à un accouplement printanier, mais une certaine raison de famille perturbe cette spontanéité. Si l'on veut des naissances en saison d'abondance, il faut choisir soigneusement la date de la procréation. Les agronomes anciens nous donnent leur point de vue de praticien et démontrent une capacité de raisonner en intégrant rythmes végétaux, animaux et humains. En voici trois exemples, les antiques Varron et Columelle et le médiéval Piero dei Crescenzi. Varron d'abord, un érudit qui, comme vous le savez, a parmi bien d'autres ouvrages compilé un traité d'agronomie, les Res Rusticae. Il y écrit que chez le cheval, je cite, l'époque de la monte va de l'équinoxe de printemps au solstice, afin que les juments puissent mettre bas en temps propice pour le poulain qui vient au monde le 10e jour du 12e mois après l'accouplement. Varron ne nous dit pas en quoi la date préconisée est propice. Mais il le fait ailleurs à propos de la brebis. Pour elle, je cite, le véritable moment de la monte va du coucher d'Arcturus, le 13 mai, à celui de l'aigle, le 23 juillet, des constellations, etc. Comme la brebis porte 150 jours, elle mettra à bas à la fin de l'automne, époque où la température est assez douce et où l'herbe, renouvelée par les premières pluies, commence à sortir de terre. Pour la vache, je cite, l'époque de conception la plus favorable est la période de 40 jours qui suit le lever du dauphin, le 4 janvier, ou un peu après. Une vache qui aura conçu à cette époque veillera dans la saison la plus tempérée de l'année. Chez ces trois animaux, une conception après la date idéale affecte négativement la qualité de l'animal à naître. Le poulain sera défectueux et plus ou moins impropre à l'usage qu'on se propose d'en faire, et l'agneau sera chétif et grêle. L'éleveur doit donc intervenir pour faire respecter le juste moment. Dans le cas du cheval, je cite, dès que le printemps sera venu, le père Auriga devra présenter l'étalon à la jument deux fois par jour. On appelle père Auriga celui qui est chargé de faire accomplir aux chevaux l'acte générateur. L'éleveur de brebis doit, deux mois à l'avance, séparer le bélier étalon du reste du troupeau et le nourrir plus largement que de coutume. Le soir, au retour du pâturage, il doit disposer devant lui une ration d'orge. Il en aura plus de force et supportera mieux les fatigues de son rôle. Ensuite, la citation continue, « Sitôt que toutes les brebis sont pleines, de nouveau on les sépare des béliers, dont l'opportunité ne leur est plus que nuisible. » Enfin, à propos de la vache, Varron décrit à la première personne sa manière d'intervenir. « Voici les règles que j'observe. Un mois avant l'accouplement, j'empêche mes vaches de se gorger de nourriture. » parce que, maigres, elles conçoivent plus facilement. Mes taureaux, au contraire, sont engraissés deux mois à l'avance avec force paille, foin et fourrage vert. Pendant tout ce temps, je m'attache à les séparer des femelles. Chez Columelle, maintenant, et son Dere Rustica, qui nous offre au moins cinq exemples pertinents autour de ce problème. À propos du cheval, Columelle distingue le traitement des chevaux de luxe et celui des chevaux ordinaires. Chez les premiers, ceux de, je cite, la race qui fournit les chevaux pour les jeux du cirque et pour les concours sacrés, on fait conjoindre les mâles aux femelles généreuses aux alentours de l'équinoxe de printemps, afin que les juments puissent sans grand-peine nourrir le poulain à un moment où la campagne sera fertile et herbue. Quant aux chevaux de basse extraction, citation, on permet aux mâles et aux femelles de paître ensemble, ça et là, et on ne respecte pas de moment déterminé pour les accouplements. Avec les moutons, on voit se combiner rythme naturel et rythme agricole. Entre deux dates favorables à la saillie des brebis, avril pour celles qui n'ont pas encore annulé, et juillet pour celles qui l'ont déjà fait, que Lumel recommande la première. Citation, « Afin que par une continuité d'opérations successives, la naissance des agneaux succède à la vendange, comme celle-ci aura succédé à la moisson. De ce fait, ces animaux pourront mieux supporter les froids et le jeûne dont ils sont menacés pendant l'hiver, grâce aux forces qu'ils auront prises en se rassasiant de fourrage pendant tout l'automne. En effet, l'agneau d'automne vaut mieux que celui du printemps. Pour la reproduction des bovins, la nature fournit elle-même un calendrier harmonieux qui réduit au minimum l'intervention humaine. Je cite Columel, « C'est en général au mois de juillet que l'on doit permettre aux mâles d'accéder aux femelles afin qu'elles donnent naissance à leurs petits au printemps suivant, lorsque les pâturages seront déjà dans leur force. En effet, elles portent pendant 10 mois. Ce n'est pas en raison de la volonté de leur maître qu'elles se soumettent aux mâles, elles le font d'elles-mêmes. C'est en effet à peu près au moment dont je viens de parler que se présentent chez elles les désirs naturels. Rendues joyeuses par l'abondance du fourrage de printemps, elles s'ébattent dans les plaisirs de l'amour. L'éleveur ne s'en mêlera que si la femelle refuse le mâle ou si ce dernier n'éprouve rien pour elle. » Columel nous dit des choses intéressantes sur deux autres bêtes à propos desquelles Varron n'avait rien de spécifique à nous offrir. Pour l'accouplement des chèvres, citation, nous prescrivons l'automne, un peu avant le mois de décembre, afin que les petits naissent à l'approche du printemps, lorsque les vergers bourgeonnent et que les forêts se couvrent de nouveaux feuillages. La truie doit être fécondée en février. Après avoir porté pendant 4 mois, elle mettra bas au 5e. Alors les herbes seront déjà fortes, si bien que les porcelets bénéficieront d'un lait bien mûr. Et dès qu'ils seront sevrés, ils se nourriront de paille, ainsi que des graines qui tomberont des légumineuses. Columel module cependant cette réflexion en y intégrant un paramètre économique. Si cette manière de faire est applicable, je cite, dans les endroits éloignés où l'on n'a pas d'autre besoin que la reproduction, en revanche, dans les régions proches des villes, il faut placer les porcelets qui allaitent dans une autre porcherie. De la sorte, libérés du souci de les élever, les mères concevront bientôt de nouveau et par conséquent, mettront bas 2 fois par. Et enfin, chez Piero de Crescenzi, sur le calendrier des saillies, comme sur bien d'autres points, les agronomes médiévaux dépendent beaucoup de leurs prédécesseurs antiques. Cependant, ils se permettent parfois aussi d'ajouter le grain de sel de leur propre lecture. Le Liber Ruralium Commodorum du juriste bolognais Piero de Crescenzi, qui est mort en 1321, en offre un bon exemple. Le calendrier des saillies et des naissances apparaît dès le début du traité à propos des chevaux. Il faut procéder à la saillie de l'équinoxe de printemps au solstice, de telle sorte que la mise bas ait lieu au moment idéal quand il y a de l'herbe en quantité, afin que la mère ait abondance de lait. Il s'ensuivra que le corps et les membres du poulain seront plus grands. En effet, on dit qu'ils naissent le 10e jour du 12e mois. Ceux qui naîtront après ce temps ne seront d'aucune utilité. On aura reconnu ici l'écho de Varron à propos du calendrier et de la mauvaise qualité des poulains conçus trop tard, et l'écho de Columel à propos de la qualité de l'herbe, garante de la bonne nourriture du poulain. À propos des vaches, Piero se réfère explicitement à Varron dans le passage qu'il nous a retenu plus haut. Mais il n'est pas pour autant en accord avec lui. Voici ce qu'il écrit à propos du régime alimentaire propre à ces moments. Avant la saillie, les vaches ne se remplissent pas de nourriture et de boissons, car on estime que maigres, elles conçoivent plus facilement. En revanche, les taureaux doivent, pendant les 2 mois qui précèdent la saillie, être abondamment nourris d'herbes, de paille et de foin. Ils seront séparés des femelles. Jusqu'ici, c'est du Varron. Puis, je continue la citation, on les rendra ensuite au troupeau vers la fin de mai, ou selon Palladius, pendant tout le mois de juin, voire au début de juillet. de la sorte, celles qui concevront alors donneront naissance en un moment très bien tempéré de l'année. En effet, les vaches sont enceintes durant 6 mois. Sur les dates de saillie, le désaccord est donc sérieux, causé probablement par l'irruption de Palladius, qui voit les choses autrement. À propos des moutons, enfin, Pierrot voit 2 moments favorables à la saillie. Je cite, « Le premier est au mois d'avril, de sorte que l'hiver trouve les agneaux déjà mûrs. Cette saillie peut être retardée jusqu'au mois de juin, et même, si elle survient en juillet, les petits pourront encore prendre des forces avant l'hiver. » Cette fourchette large semble englober les 2 dates de Columelle. Pierrot poursuit. Le second moment de la saillie est après le milieu d'octobre, afin que les brebis donnent naissance vers le début du printemps, lorsque les herbes naissent. Pierrot, tout comme Varron et Columelle, privilégie la première solution, qui permet, je cite, que la naissance se produise vers la fin de l'automne, lorsque l'air est moyennement tempéré, dès que les averses appellent l'herbe. Au terme de cette première étape, permettez-moi de bien préciser que les 3 témoins entendus sont des agronomes amateurs, convaincus de l'importance de l'agriculture et de l'élevage, dotés d'une expérience plus ou moins poussée de la gestion, mais inspirés par la lecture de leurs prédécesseurs plutôt que par une pratique personnelle. Il ne s'agit en aucun cas de paysans qui nous livreraient leurs petits secrets d'étable. Il ne faudrait pas prendre nécessairement les pratiques paysannes, confondre les pratiques paysannes avec ce que nous disent ces agronomes. Il y a toute une critique à faire. Abordons le deuxième regard, celui du théologien et du moraliste. Le deuxième regard dans lequel nous allons nous glisser est celui du théologien ou du moraliste. Cet exercice-là exige un dépaysement mental plus intense que le précédent. Thomas de Chobham, un ecclésiastique et universitaire anglais né au milieu du XIIe siècle et mort dans la première moitié des années 1230, va nous y aider. Dans un passage de sa Somme sur l'art de prêcher, dans les années 1220, il a très clairement décrit ce regard sur les créatures. Je cite « Le Seigneur a fait des créatures diverses, dotées de natures différentes, cela non seulement pour l'entretien matériel des hommes, mais aussi pour leur instruction. Cela pour que, à travers ces créatures, nous n'examinions pas seulement ce qui nous est utile quant au corps, mais aussi ce qui nous l'est quant à l'âme. » En effet, il n'est pas de créature qui ne proclame que Dieu est le Tout-Puissant qui l'a créé, que Dieu est le Sage qui l'a disposé et lui a donné sa forme, et le Miséricordieux qui la maintient en existence. Et pour s'exprimer plus généralement, il n'est pas de créature dans laquelle nous ne puissions observer quelque particularité qui nous pousse à imiter Dieu ou quelque autre qui nous incite à fuir le diable. Pour ceux des hommes du Moyen-Âge dont nous pouvons entrevoir les idées, l'animal ne rend pas aux humains que des services de nature économique. Il est aussi un signe de Dieu qui s'en sert pour manifester sa puissance et sa sagesse, mais aussi, d'une certaine manière, pour enseigner. La création est pour ces hommes un livre dont les créatures sont les mots, qu'il s'agit d'apprendre à déchiffrer et à comprendre. C'est pour eux une bonne raison de s'intéresser aux animaux. Il en est une autre. Dieu s'adresse aussi aux humains dans la Bible. Or, celle-ci grouille d'animaux presque autant que la nature elle-même. Il s'agit de connaître ces animaux mots pour bien interpréter ce que leur Créateur les a chargés de nous dire. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas de trouver dans les écrits des théologiens médiévaux toutes sortes de bêtes. On ne sera pas non plus surpris qu'ils ne les traitent pas tellement en elles-mêmes, mais comme signe divin à comprendre et à traduire à l'usage des fidèles. Les textes dans lesquels ce regard nous est transmis m'ont intéressé parce que la question des liens entre les bêtes et le temps se prêtent bien à faire ressortir la sagesse de Dieu. Ils offrent aussi une occasion idéale d'entendre les animaux comme moralisateurs de la vie quotidienne. Bien user de son temps, ou ne pas le perdre, devrait être en effet des préoccupations importantes pour les chrétiens de ce temps. Je n'ai pas ici d'autre ambition que de vous proposer une excursion dans ce monde particulier sous la conduite d'un oiseau, l'autruche, et d'un mammifère, l'onagre. L'autruche tout d'abord, qui était connue de Pline l'Ancien et de ses confrères antiques pour sa grande taille, la vitesse de sa course, ses talons guerriers, la puissance de sa digestion, sa sottise, la grosseur de ses œufs et la beauté de ses plumes. Claude Elien ajoutait un élément important pour nous. Pour protéger ses œufs contre la pluie, je cite, « l'autruche construit un nid très bas sur le sol en écartant le sable avec ses pattes ». Cette riche description a nourri le travail des auteurs du Moyen-Âge, mais ils ne s'en sont pas contentés. En effet, ils avaient appris dans la Bible, en lisant le livre de Job, que l'autruche, je cite, « abandonne ses œufs à la terre et les confie à la chaleur du sol ». Elle oublie qu'un pied peut les fouler, une bête sauvage les écraser. Dur pour ses petits comme pour des étrangers, d'un souci inutile, elle ne s'inquiète pas. C'est que Dieu l'a privée de sagesse, ne lui a point donné l'intelligence. Déjà sotte pour les antiques, l'autruche devient ainsi un animal gravement négligent, au point d'abandonner sa progéniture au sable et au soleil. Reprise par des auteurs aussi prestigieux et influents qu'Isidore de Séville ou Grégoire le Grand, cette image de l'autruche a circulé tout au long du Moyen-Âge, à travers les commentaires du livre de Job, les écrits sur la nature, les textes de morale ou les recueils d'exemples à l'usage des prédicateurs. Mais où se cache le temps? Pour qu'il fasse irruption, il a fallu un ingrédient supplémentaire, le physiologus. Écrit en grec au IIe siècle, traduit en latin au Ve, puis dans plusieurs langues vulgaires, ce texte passe en revue de nombreux animaux et déchiffre leur message moral. À chaque fois, l'auteur met d'abord en évidence un aspect concret de la bête, dont il donne ensuite la signification symbolique, laquelle donne à l'animal sa valeur de modèle. C'est dans cet exercice que l'autruche rencontre le temps. Citation, « Quand vient le temps où il doit déposer ses œufs, cet animal lève les yeux vers le ciel et regarde si l'étoile appelée Virgilia, qu'on interprète couramment comme les Pléiades, donc regarde si l'étoile appelée Virgilia apparaît. En effet, il ne dépose ses œufs dans la terre que lorsque cette étoile s'élève dans le ciel, quand les moissons fleurissent, vers le mois de juin. Lorsqu'elle a constaté que Virgilia est montée dans le ciel, l'autruche creuse la terre dans le désert, y dépose ses œufs et les recouvre de sable. Elle les abandonne et c'est le soleil qui les couvre. Le physiologus a fortement contribué dans l'Europe des XIIe et XIIIe siècles à l'essor des bestiaires. Comme lui, ses ouvrages partent de l'animal réel, puis le traduisent en termes moraux. Dans leur bestiaire, Pierre de Beauvais entre 1200 et 1220, Guillaume Leclerc, 1210-1211, reprennent presque mot à mot le physiologus. Dans le Libro della Natura degli Animali, fin du XIIIe siècle, Toscane, le lever des Pléiades et le dépôt dans le sable ont lieu en mars ou avril, mais c'est dans le droit fil du physiologus que l'autruche oublie ses œufs. Cette autruche a fait aussi carrière dans les encyclopédies du XIIIe siècle. Dans la sienne, Vincent de Beauvais reste fidèle au physiologus. L'autruche creuse la terre, y dépose ses œufs, les recouvre de sable et les oublie aussitôt. C'est en effet un animal oublieux. Il en va de même dans le livre du Trésor du Florentin Brunetto Latini, à un détail près. C'est, je cite, « comme averti par la nature, en été, vers le mois de juin, que cet oiseau regarde les Pléiades. Il en sable ses œufs, puis s'en va à ses affaires et oublie sa ponte. » D'une manière générale, le comportement de l'autruche a surtout contribué à faire d'elle un parfait exemple de négligence, celle en particulier des mauvais parents. Son attention au lever des Pléiades l'a un peu rachetée. N'a-t-elle pas un peu de la sagesse de ceux qui se tournent vers les affaires du ciel plutôt que vers celles de ce bas monde ? Le témoignage de l'Onagre, ensuite. Dans le cas de l'Onagre, qui est un âne sauvage, la chaîne des textes pertinents pour nous part du Physiologus. Il est un animal appelé Onagre. Le physiologiste dit de lui que le 25e jour du mois de Phaménote, c'est-à-dire de mars, il rugit 12 fois durant la nuit et autant pendant le jour. On comprend alors qu'on est arrivé à l'égalité du jour et de la nuit, et on connaît le nombre des heures d'après les rugissements de l'onagre, qui rugit une fois à l'échéance de chaque heure. Écrit entre 1121 et 1135, le bestiaire de Philippe de Taen tient un discours bien représentatif, fondé sur le Physiologus. Je cite « Lorsque dans son cours, Mars a passé 25 jours, ce jour du mois, l'onagre braie 12 fois, et autant la nuit, pour la raison que ce jour est l'équinoxe, où la nuit et le jour sont d'égale durée. En émettant 12 fois son braiement, il montre que la nuit et le jour durent 12 heures. L'âne pousse ses cris, car il est triste que le jour et la nuit soient d'égale longueur. Il préfère en effet que la nuit soit plus longue que le jour. Entendez maintenant la signification de tout cela. L'onagre est le symbole du diable dans cette vie. Par Mars, nous entendons tout le temps dont nous disposons, car en vérité, c'est en cette saison que Dieu a tout fait. Par le jour, nous comprenons les bons qui iront vers la lumière et vivront avec Dieu. Par la nuit, nous comprenons ceux qui iront avec le diable. Par les heures, nous comprenons le nombre des hommes. Lorsque le diable sent que le nombre de ses adeptes diminue, comme les heures nocturnes après l'équinoxe de printemps, qui tombe en mars, il commence à crier et à se lamenter bruyamment, tout comme l'âne qui braie. L'équinoxe est la preuve qu'après le jugement, il y aura sans aucun doute possible un paradis terrestre et un enfer de même durée. Souvenez-vous-en, tel est le sens. Dans les bestiaires, l'onagre a parfois ses utilisateurs. Dans celui de Guillaume Leclerc, lorsque l'âne sauvage pousse ses cris, je cite, « Les paysans qui demeurent près de là savent bien qu'à ce moment, les jours et les nuits ont la même durée. Ils connaissent en toute certitude qu'à cette date précise, on se trouve tout juste le jour de l'équinoxe. » Une version éthiopienne du Physiologus signale que lorsque le 25 du mois de Magabit, l'âne sauvage a crié 12 fois, le roi et les satrapes savent que la nuit et le jour sont égaux. Enfin, l'onagre et les équinoxes passent aussi sans guère de changement dans les encyclopédies. Voilà, à titre d'exemple, la version que Brunetto Latini donne dans son livre du Trésor. Sachez que cet âne sauvage, qu'on appelle onagre, crie une fois à chaque heure du jour et de la nuit, de telle sorte qu'on peut bien connaître les heures et savoir avec certitude quand la nuit est égale au jour. L'ensemble de ces histoires d'onagre laisse planer un doute sur la définition de la merveille. Consiste-t-elle dans la science extraordinaire qui permet à cet animal de voir venir l'équinoxe pour l'annoncer au bon moment, par un message codé, un nombre égal de signaux entre le lever et le coucher du soleil, puis entre ce coucher et le lever suivant? La tristesse du diable onagre fait évidemment pencher pour cette lecture. Où consiste-t-elle, cette merveille, dans une compétence permanente à annoncer d'un braiement sonore chaque heure du jour et de la nuit. Cet extraordinaire savoir permettrait aux humains attentifs de savoir que l'équinoxe est là, ainsi que toutes les choses que nous tirons d'une horloge. Le texte de Brunetto semble le suggérer, de même que la fin du passage cité du Physiologus. Nous en arrivons au troisième regard, c'est celui qui nous prendra le plus de temps, le regard du naturaliste. Le théologien et chanoine régulier anglais Alexandre Neckam, entre 1154 et 1220, est l'auteur de l'une des premières encyclopédies du Moyen-Âge central, De Naturis Rerum. Il y pose, à propos du coq, une question naturelle, Quaestio Physica. Je le cite, « Ceux que des préoccupations de ce genre agitent se demandent volontiers comment le coq distingue les heures par son chant. » Telle est la sorte de gens qui va maintenant nous occuper autour de deux problèmes. D'une part, les rythmes biologiques et leur explication médiévale, et la connaissance de l'heure par les coqs et son explication également. Premier point, autour des rythmes biologiques. Nous avons déjà rencontré plusieurs ensembles de biorhythmes chez les animaux domestiqués. D'autres auraient pu me servir d'exemple d'ingéniosité ou de moralité animale. Bref, ces rythmes traversent tout le champ de recherche que je vous présente ce soir comme l'une de ses composantes importantes. Tentons d'approfondir un peu. Je commencerai par esquisser le paysage des biorhythmes en privilégiant ce soir Aristote. Son apport constitue en effet le socle des connaissances jusqu'à la Renaissance, largement comprise. Un premier champ de curiosité a passionné les anciens auteurs. La durée de vie des animaux, et plus encore la version animale des âges de la vie et des transformations que leur passage entraîne chez les individus. Voici chez Aristote un exemple caractéristique. Je le cite, je signale que la plupart des exemples viennent de l'histoire des animaux. Le sang diffère aussi en abondance et en espèces selon les âges. Chez les sujets extrêmement jeunes, il est tout à fait fluide et abondant. Mais chez les sujets âgés, il est épais, noir et peu abondant. Chez les sujets qui sont dans la force de l'âge, il est intermédiaire. Le sang des sujets âgés se coagule vite, même s'il se trouve dans une partie supérieure du corps. Mais chez les jeunes, cela ne se produit pas. Le deuxième domaine est celui de la conception, de la naissance et de l'éducation des petits. Je vous ai montré son importance pour les agronomes, mais les animaux sauvages sont loin d'être négligés. Voici, vu par Aristote dans le monde des oiseaux, un problème de temps bien connu aujourd'hui des jeunes couples humains. La répartition, ou non, des rôles entre mâles et femelles lorsqu'il y a des œufs à couver, puis des petits à élever. Se dégagent trois scénarios principaux. Les ramiers font alterner avec précision l'intervention des parents. Je cite Aristote, les femelles des ramiers couvent toute la nuit à partir du soir et jusqu'à l'heure de leur repas. Puis les mâles les relaient pour le reste de la journée. Les perdrix se répartissent les œufs en deux lots, puis, je cite, le mâle en couve un et la femelle l'autre. Après l'éclosion, chacun élève les siens. Enfin, les corneilles optent pour une spécialisation radicale des rôles. Les femelles couvent seules et passent tout leur temps sur les œufs. Les mâles les nourrissent en leur apportant de la nourriture et en leur donnant la béquille. Le troisième domaine dans cet inventaire est celui des changements qui affectent, selon un rythme saisonnier, l'aspect et les comportements des bêtes. Aristote les présente comme très communs. La huppe, par exemple, je le cite, change de forme l'été et l'hiver, comme la plupart des oiseaux sauvages. Voici le cas des cerfs. Je cite, au temps où ils s'accouplent, leur chair devient mauvaise et nauséabonde, comme celle des boucs. En hiver, ils deviennent maigres et faibles. Et c'est au printemps qu'ils atteignent le plein de leur forme pour courir. Mais lorsqu'ils deviennent épais, car ils deviennent très gras à la saison de l'automne, le mâle ne se montre plus nulle part, mais il change de lieu, comme s'il était facile à capturer en raison de son épaisseur. Un autre changement saisonnier, fréquent, touche la voix. Voici l'exemple de quelques merles. Celui d'Aristote a, je cite, selon les saisons, une voix différente. En été, il chante, tandis qu'en hiver, il fait du bruit et fait retentir un son tumultueux. Celui de Pline chante en été, bégaye en hiver et reste muet aux environs du solstice. Enfin, celui de Claude Hélien chante pendant la saison d'été. En hiver, en revanche, il émet des sons stridents et confus. Au XVIe siècle, le merle de Pierre Belon, dans une publication de 1555, nous ramène à Aristote, lequel, observant ses mœurs, dit qu'il bégaye et gazouille en hiver, mais l'été, il chante en faisant grand bruit, à gorge déployée. Quatrième centre d'intérêt, l'hibernation, qui fait disparaître les animaux pendant une partie de l'année. Aristote souligne que ce comportement est normal chez les animaux terrestres qui, je cite, « désirent se retirer en hiver dans leur abri et qui le quittent à la saison chaude ». L'hibernation de l'ours a beaucoup intéressé les naturalistes anciens. Aristote pose les connaissances de base suivantes. Le fait que les ours sauvages se retirent est manifeste. À cette époque, les mâles et les femelles deviennent très gras. La femelle donne naissance à cette occasion et elle se retire dans un abri jusqu'à ce que vienne pour ses petits le moment de sortir. Elle fait cela au printemps, environ 3 mois après le solstice d'hiver. L'ours se retire au minimum 40 jours. On dit que de ces 40 jours, il y en a 2 fois 7 au cours desquels il ne fait aucun mouvement. Puis dans ceux plus nombreux qui suivent, il est retiré, mais il bouge et s'éveille. Pendant ce temps, il est évident que les ours ne mangent pas. L'immigration soustrait également les animaux au regard des humains. Cette autre manière de se protéger du froid soulève un très grand intérêt. Aristote en donne pour le monde des oiseaux une formulation générale. Quand la saison devient difficile, je cite, certains d'entre eux découvrent des secours dans leur séjour habituel. Mais d'autres changent de lieu. Après l'équinoxe d'automne, ils quittent le pont, donc la zone de la Caspienne, etc., et les lieux froids pour fuir l'hiver qui vient. Après l'équinoxe de printemps, ils quittent les lieux chauds pour les lieux froids, par crainte des chaleurs brûlantes. Ailleurs, Aristote avance que ceux des oiseaux qui sont faibles descendent vers les plaines pendant l'hiver et les grands froids à cause de la chaleur. En été, ils les quittent pour la montagne à cause des chaleurs brûlantes. Au XVIe siècle, Pierre Belon reprend les propositions aristotéliciennes, puis il esquisse une intéressante comparaison avec les humains. On peut comparer avec les oiseaux passagers certaines populations qui n'ont autre soin qu'à entendre à se nourrir. Belon cite les Albanais et les Valaques, en Roumanie, qui, je cite, sortent au printemps hors de leur contrée et vont demeurer tout l'été par Turquie, où ils gagnent quelque argent à recueillir les grains, puis s'en retournent dans leur pays en automne, où ils vivent tout l'hiver de l'argent qu'ils ont gagné l'été précédent. Les montagnards de Savoie, de Suisse ou d'Auvergne se comportent de la même manière, si bien que Belon les compare aux bécasses, qui ne peuvent vivre en hiver sur les sommités des montagnes que la glace et la neige couvrent. Elles descendent à la campagne, qui en ce temps-là est humide et nourrit abondance de vers de terre, dont elles sont repues. Après l'inventaire sommaire, quelques explications proposées à ces biorhythmes. Les naturalistes anciens ne se contentent pas de décrire les biorhythmes qu'ils rencontrent, ils s'efforcent aussi de leur trouver des explications, de comprendre leurs mécanismes. Deux causes dominantes se dégagent. Le mouvement des astres et l'influence de l'environnement proche. De plus, nous surveillerons soigneusement les humeurs qui composent les corps. Elles sont en effet le relais concret à travers lequel s'exercent ces deux causes. Alors, premier type d'explication, le ciel et les astres, avec l'exemple de la lune. Pour nos savants auteurs, il est clair que, comme elle fait monter ou descendre la mer, la lune exerce une action concrète et diversifiée sur l'organisme des vivants, par le truchement des liquides qu'il contient. Dans un paysage documentaire très riche, je me suis limité à deux exemples. Le foie de la souris et du rat témoigne de l'effet de la lune sur la biologie animale. Pline rappelle que, dit-on, le nombre des lobes du petit foie des rats correspond à celui des jours de la lune dans le mois, et l'on en trouve autant que celle-ci a de jours. De plus, ce foie grossit au moment du solstice d'hiver. Claude Elien évoque le même phénomène, mais du point de vue technique, il le décrit différemment. Je le cite, « Dans le foie de la souris, chose vraiment étrange et surprenante, quand la lune est croissante, le lobe augmente chaque jour jusqu'à la pleine lune. Il diminue ensuite peu à peu quand la lune décroît pendant le même nombre de jours, jusqu'à ce qu'il perde sa forme. Isidore de Séville relaie ce message vers la suite des temps. Je le cite, « Le foie de la souris grandit pendant la pleine lune, tout comme grandissent certains animaux marins, qui diminuent de nouveau lorsque la lune décroît. » C'est un fait que les influences rythmées de la lune sont très bien documentées dans mes textes à propos des animaux aquatiques, dans la structure humorale desquels l'eau a une part importante. Dans le second exemple, les états d'âme du singe nous renseignent plutôt sur la psychologie animale. Selon Pline, je le cite, « On assure que les singes à queue sont tristes au décours de la lune et qu'ils l'adorent en bondissant de joie lorsqu'elle est nouvelle. » Dans le Physiologus, je cite, « Les singes sont connaisseurs des éléments, ils exultent à la nouvelle lune, mais sont tristes à la lune moyenne et creuse. » Isidore le reprend au mot près. Et dans le Bestiaire divin de Guillaume Leclerc, on lit, je cite, « À propos des singes d'autres espèces qui vivent ici dans la compagnie des hommes, ils sont très portés à la mélancolie. Aussi longtemps que la lune est dans sa phase croissante, ils sont gais et joyeux, mais lorsque la lune arrive dans son décours, ils deviennent affligés, tristes et abattus. » Dans le petit monde des encyclopédistes, Brunetto Latini met aussi en évidence le singe mélancolique. Il est tout réjoui à la nouvelle lune, mais la pleine lune l'afflige et lui trouble le cœur d'une grande mélancolie. En revanche, Thomas de Quentin-Pré et Barthélemy Langlais en restent à Isidore, qu'ils citent mot à mot. Une deuxième catégorie de causes explicatives de ces changements, de ces biorhythmes, les changements dans l'environnement. À maintes reprises, Aristote aborde dans son Histoire des animaux la question de l'influence du milieu sur le comportement. Il établit souvent des liens de causalité entre les saisons et la santé des animaux, ou certaines modifications de leur aspect. À propos des migrations, voici comment il raisonne. Je cite « Les actions des animaux sont déterminées par le froid, la chaleur et les changements de saison. En effet, tous les animaux ont une sensation innée du changement selon le chaud et le froid. Et à l'instar des hommes qui se transportent l'hiver dans leur maison, ou qui, s'ils sont maîtres de beaucoup d'espace, résident à la chaleur l'hiver et au froid l'été, les animaux peuvent changer de lieu. » De son côté, Claudelien décrit les micro-migrations du lièvre dans son territoire. Le lièvre est sans doute un animal expert en matière de vent et de saison. Durant l'hiver, il s'installe dans les zones ensoleillées. Il est clair et évident qu'il éprouve du plaisir à se réchauffer et que, au contraire, il déteste le froid. En été, par contre, poussé par un désir de fraîcheur, il préfère se déplacer vers le septentrion. Comme un cadran solaire, ses narines lui indiquent le changement des saisons. Bien plus tard, au XIIe siècle, l'abbesse bénédictine Hildegarde de Bingen rapporte que, je la cite, « le rossignol vit de l'air nocturne et il est pur. Et parce qu'il vit de l'air nocturne, il est plus joyeux, chante plus la nuit que le jour. Car le soleil a beaucoup d'éclat le jour et le rossignol n'aime pas cela. » Un arrêt maintenant sur le rôle des humeurs dans toutes ces explications. Voulant aller un peu plus loin dans l'explication, certains auteurs anciens cherchent à savoir comment la lune ou l'environnement exercent concrètement leur influence sur le corps de l'animal. Ainsi, dans la première moitié du XIIe siècle, Guillaume de Conches se demande d'où vient le fait que, selon la lunaison, les humeurs tantôt s'accroissent, tantôt diminuent de volume. Les éléments de la réponse étaient connus depuis longtemps, et à l'orée du Moyen-Âge, on les lit chez le stratégique Isidore de Séville. Il écrit à propos des coquillages qui se creuseraient ou se videraient lorsque la lune décroît, que, je le cite, « les membres de tous les animaux enfermés et les coquillages de la mer enflent lorsque la lune croît. En effet, lorsque la lune croît, elle augmente les humeurs. Lorsqu'elle décroît, les humeurs diminuent. C'est ce qu'affirment les spécialistes de la nature, physique. Au XIIIe siècle, Thomas de Quantin-Pré s'intéresse au cerveau de la carpe, dont la taille varierait selon les phases de la Lune. Pour expliquer cela, il se réfère à la règle énoncée par Isidore, puis précise que, je cite, « le cerveau de n'importe quel animal » c'est-à-dire sa partie, ça, celle de l'animal, sa partie la plus froide et humide, donc aqueuse, reçoit l'influence de l'astre le plus humide et froid, celui qui augmente ou réduit l'eau des marées. Chez Barthélemy Langlais, on trouve un autre usage explicatif des humeurs. Il s'intéresse dans ce passage au moment de l'aurore et à ce qui se passe alors dans la nature. Après avoir évoqué la couleur du ciel, l'humidité de ce moment et l'augmentation de la lumière, il nous dit que, je cite, « les oiseaux purs et diurnes sont alors incités à voler et à chanter, tandis que les oiseaux impurs vivent la nuit. » Enfin, il fait remarquer que, à l'aurore comme au printemps, c'est le sang qui domine parmi les humeurs. C'est pourquoi le sommeil est doux et... alors, à ce moment en particulier, les coqs sont poussés à chanter. Ce qui nous amène au deuxième point de cette troisième partie, donc le coq animal horloge. Le dominicain Albert le Grand a, durant sa longue carrière, montré un intérêt soutenu pour la compréhension des êtres vivants. Dans ce contexte, il s'est intéressé au chant du coq et a posé trois questions à son sujet. La troisième sonne ainsi. Pourquoi le coq chante-t-il à des heures déterminées? Je vous invite à suivre les étapes de son raisonnement. Albert commence par énoncer une théorie générale sur la base de laquelle il semble vouloir construire son explication. je le cite, à propos de la troisième question. Il faut dire que ces êtres inférieurs suivent le mouvement des corps célestes. Par conséquent, chacune des quatre humeurs présentes dans le corps chacune des quatre humeurs présentes dans le corps domine selon la diversité et le changement de ces temps. Le sang domine par temps chaud et humide, la bile par temps chaud et sec, la bile noire par temps froid et sec, le phlegme par temps froid et humide. Albert établit ensuite que le coq est, je cite, un animal dans lequel domine la bile. En témoigne la petitesse de sa tête par rapport à la taille de son corps et la sécheresse de son cerveau. Il a en effet une petite tête et un cerveau sec. On s'attendrait ici à ce que notre philosophe applique au coq bileux l'énoncé général posé auparavant. La bile domine par temps chaud et sec. En fait, Albert part dans une autre direction, sous le signe des médecins. Je cite, « Selon les médecins, le mouvement de la vie de la bile va de 3 en 3, c'est-à-dire de 3 ans en 3 ans, de 3 mois en 3 mois, de 3 jours en 3 jours, ou de 3 heures en 3 heures. Cela est évident chez les végétaux. Certaines plantes dans lesquelles la bile domine ne produisent des fruits que de 3 ans en 3 ans. Certaines herbes le font que de 3 mois en 3 mois. Celui qui a de la fièvre en raison d'une abondance de bile en souffre de 3 jours en 3 jours. Ces bases établies, Albert revient au coq et franchit une nouvelle étape. Je le cite, « Puisque le coq est un animal bileux, il agit de 3 heures en 3 heures. C'est aux heures où domine la bile qu'il chante le plus, parce qu'elle est alors en ébullition dans son récipient. Le cœur en attire beaucoup parce qu'il se nourrit de bile. Et ainsi, est-ce à ces heures-là que le coq chante ? » Parvenu à ce stade, Albert a répondu à une partie de la question. Il s'est expliqué pourquoi les annonces du coq se produisent à des heures déterminées, et il va même au-delà en démontrant que ces moments reviennent naturellement toutes les 3 heures. Il ne reste plus qu'à expliquer pourquoi le coq s'exprime en chantant et non pas en tournant sur lui-même, en roulant des yeux furieux ou en filant droit devant lui. Albert construit sa solution en 2 temps. Dans un premier temps, il faut comprendre que si la bile et les autres humeurs sont à toute heure en mouvement, elles le sont cependant plus à certaines heures qu'à d'autres. Donc je cite Albert. Dans ces moments-là, les organes bileux, comme le cœur, attirent à eux de la bile en raison de leur similitude. En effet, selon l'adage, tout semblable jouit de son semblable. Pour nous aider à comprendre cela, Albert donne un exemple dans lequel, en vertu de leur commune couleur rouge, du sang et un bouclier vont se rapprocher l'un de l'autre. Je redonne la parole à Albert. Soit un homme récemment oxy est jeté dans l'eau et un bouclier rouge dérivant au fil de cette eau. Lorsque ce dernier atteindra le corps gisant dans l'eau, il s'arrêtera ou se déplacera en cercle autour de lui sans poursuivre sa route. Cela ne fonctionnerait cependant pas aussi bien avec d'autres boucliers parce que de toutes les couleurs, le rouge est celle qui se diffuse le plus. On le voit bien dans le cas d'un drap rouge suspendu à une fenêtre dans les rayons du soleil. Revenons à la rencontre entre le cadavre et le bouclier. Albert, lorsqu'une personne récemment tuée est plongée dans l'eau, du sang va s'échapper de son corps, s'il bout encore en elle. Et il va multiplier son image, sa species, parmi les particules de l'eau. De la même manière, le bouclier rouge va répandre son image dans l'eau. Il en suit que lorsque le bouclier flottant au fil de la rivière parvient à l'eau rougie, il ne repart plus de là, parce qu'il a trouvé son semblable, et que le semblable a plaisir à être avec son semblable. Albert peut alors revenir au coq et conclure. C'est bien ce que nous proposions. Au moment du mouvement de la bile, les membres de nature bileuse attirent à eux une grande quantité de cette humeur. Dans un second temps, Albert tire parti d'une caractéristique de la bile pour expliquer pourquoi le coq s'exprime par le chant, et pas autrement. Je le cite, « La bile est de nature irritante et mordante. » C'est ainsi que, à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque le cœur est saturé de bile, afin de calmer l'irritation due à cette bile irritante et de s'en débarrasser, le coq étend ses ailes et les meut de l'avant vers l'arrière, en particulier vers la poitrine, afin que les fumées ou les vapeurs bileuses s'évacuent. Après leur sortie, l'oiseau, soulagé, chante. Comme le mouvement de la bile se produit à des moments précis, ainsi qu'on l'a démontré, c'est à ces moments et à ces heures déterminées que, comme un indicateur d'heure, dans le texte on trouve horologium, le coq chante. Quelques conclusions et ouvertures. À lire leur texte, on a le sentiment que les auteurs rencontrés dans le troisième chapitre de mon exposé cherchent à savoir comment fonctionne la nature et qu'ils s'efforcent pour ce faire d'appliquer à leur objet de réflexion des théories générales. C'est le cas et, dans un sens, on assiste bien au premier pas d'un périple qui conduira à la science moderne. Il serait fou cependant d'oublier deux faits d'une très grande importance. En premier lieu, le coq dont on vient de nous expliquer savamment les capacités chronométriques n'existe pas ailleurs que dans un bref passage du livre 10 de l'Histoire naturelle où Pline l'Ancien décrit les coqs comme ces oiseaux qui coupent la journée de 3 heures en 3 heures. En second lieu, ni Albert, ni aucun de ses contemporains, savants ou non, ne pouvait ignorer que les coqs ne chantent pas de cette manière. Mais peu leur importe. Placé sous l'autorité magistrale de Pline, le coq de l'histoire naturelle demeure pour eux plus vrai que celui qu'ils entendent chanter dans la cour voisine. Même si ce que je vous ai conté rappelle les questions de la moderne chronobiologie, il ne faut pas se tromper d'époque. Face à l'animal, les savants médiévaux poursuivent des buts tout différents de ceux que visent les zoologues d'aujourd'hui et avec des méthodes de travail bien à eux. Des personnages comme Thomas de Chobham et ses congénères ne se fondent pas dans les taillis pour observer des bêtes en chair et en os. Ils s'embusquent dans des bibliothèques pour y chasser les bêtes dans la Bible et dans les livres d'auteurs plus ou moins anciens et prestigieux, chrétiens ou non. Ces écrits ont pour eux valeur d'autorité, et ce qu'on nous lit à propos du cerf, par exemple, est plus vrai que ce que peut nous apprendre l'observation de l'animal rencontré dans la forêt. Il s'agit pour ces chasseurs bibliophages de recueillir ces matériaux, de les organiser en un bagage de connaissances utilisables, afin de découvrir leur signification et de la faire connaître aux fidèles. Même si des personnages comme le franciscain anglais Roger Bacon ou le dominicain allemand Albert le Grand recueillent parfois auprès de gens du peuple ce que nous appellerions des faits, ceux-ci demeurent au service de ce projet théologique et pastoral. Des doutes ont aussi été exprimés, critiquant l'utilisation devineresse du coq, Cicéron demande « À quel moment, de nuit ou de jour, les coqs ne chantent-ils pas ?» Et il pense, comme Démocrite, qu'il n'y a rien de divin là-dedans. Une fois la nourriture sortie de l'estomac, digérée et disséminée dans tout leur corps, ils chantent après s'être rassasiés. Hors du Moyen-Âge, au milieu du XVIe siècle, je retrouve un écho chez le savant Pierre Belon. Ces choses trop absurdes de vouloir rendre raison pourquoi les coqs chantent sur jour, la nuit et avant le jour. S'il n'y avait aucun autre oiseau que le coq qui chanta à nuit close, la nuit et au point du jour, l'on pourrait bien inventer quelques raisons suffisantes pour en prouver la cause. Mais sachant que plusieurs autres chantent la nuit et avant le jour, comme Éloi, les sarcelles, l'alouette, le vanneau, le courlis, le pluvier, la grue, le rossignol, la perdrix et autres infinis oiseaux, il nous est avis qu'on n'en peut trouver autre raison, sinon que nature a ainsi fait, les douant de ce qu'elle a voulu, en cet endroit, être faite à son plaisir. Sur cette remarque, somme toute assez sage, je m'arrête en vous remerciant pour votre patience et pour votre intérêt.
Merci, monsieur. On avait commencé le cycle de conférences par une conférence de Michel Pastoureau sur les ours. Et nous allons donc clore ce cycle par une conférence de monsieur Dubuis sur les AEO, entre autres. Merci beaucoup de cette conférence culturelle, comme vous l'avez dit, savante. C'était très, très plaisant. Merci infiniment, monsieur. Des questions ?
J'aurais une question sur une source que vous n'avez pas abordée et qui peut-être, a priori, pourrait être intéressante pour travailler dans une approche de chronobiologie. Je pensais aux proverbes, puisque dans les proverbes, il y a souvent des animaux, il y a souvent aussi des végétaux, il y a souvent un rapport au temps. Et que pensez-vous de la crédibilité scientifique que l'on peut apporter à ces proverbes ? En quoi peut-on les présenter comme un savoir peut-être un peu plus populaire ? Est-ce que ça a un sens ou pas pour le Moyen-Âge ?
Voilà. C'est effectivement une source qu'il faudra voir aussi. Bon, j'ai fait des choix, des échantillons pour ce soir. Les proverbes, je ne les ai pas beaucoup travaillés pour l'instant. Mais bon, votre question, en fait, c'est une question plus générale. Quel est l'éventuel fond d'observation qu'on peut trouver dans ces proverbes ? À vrai dire, je ne sais pas. Il faudrait en tout cas prendre ce type de texte sur la longue durée d'abord pour voir, enfin c'est fait d'ailleurs en bonne partie, pour voir comment ces choses se répètent, ce qui apparaît éventuellement, ce qui disparaît, enfin quelle est l'histoire de ce corpus, et puis ensuite oui, comparer, c'était le problème que je soulevais au début, comparer certains comportements animaux avec ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, je pense par exemple, non pas ici aux proverbes directement, mais aux dictons météorologiques. Si vous pensez par exemple à un petit texte comme le Bon Berger de Jean de Brille, à la fin du XIVe siècle, il y a deux chapitres sur la prévision météo. À partir de l'observation des cris des oiseaux et à partir de l'observation de leur manière de voler, en groupe ou pas en groupe, à ras du sol ou tout en haut. Ça, c'est une chose à faire. Moi, je ne peux pas là, vous répondre.
C'était plus sur la question de quel savoir il y a derrière. Est-ce qu'on peut vraiment y voir un savoir populaire ou pas, hein, puisque vous avez surtout évidemment parlé des agronomes antiques et puis après de leur lecture par des lettrés pendant donc, l'époque médiévale. Ouais. Moi, je suis moderniste et sincèrement, pour l'époque moderne, ça me gêne et je ne pense pas qu'on puisse donner une ouverture sociale très importante pour les proverbes pour l'époque moderne. C'est pour ça que je me posais la question pour l'époque médiévale, savoir jusqu'à quel point on peut vraiment le présenter comme un savoir populaire, le proverbe.
Oui. Alors, de nouveau une grosse question. Je dirais que bon, ces proverbes nous sont évidemment transmis par des textes savants, ou qui, même s'ils se donnent quelquefois l'air de ne pas l'être. Mais enfin, ça fait déjà une limitation très très forte, une limitation publique. Quant à la question de savoir si dans ces recueils de proverbes, sont les auteurs qui se sont donné la peine de recueillir ces proverbes ont chassé dans des recueils de proverbes ou ont écouté les gens. Donc c'est difficile à dire. Il y a un peu un cercle vicieux pour le Moyen-Âge, parce qu'on n'a pas de documents qui nous permettent de regarder à l'extérieur. Si vous voulez, c'est un peu analogique au problème des procès de sorcellerie, où on est prisonnier des procès, et on ne peut pas les regarder dehors. On retombe dans des textes qui sont influencés par cette image du sabbat, etc.
Oui, j'ai un peu une question. Je me demande, est-ce que peut-être que vous poussez plus fort sur le côté littéraire et un peu moins sur le côté scientifique, entre guillemets, si on peut faire cette distinction au Moyen-Âge, mais quand même, je pense à Crescenzi, où il y a quand même des passages où c'est quand même assez clair que c'est une observation directe de sa part sur... par exemple, quand il fait la liste sur les variétés de vignobles, là, c'est une expérience directe. Mais il y a aussi des autres traités allemands, je pense à Eisterbach, qui parlent, il y a un côté beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, au XIVe siècle, en Émilie, il y a aussi un autre traité où on voit assez bien qu'il y a une observation qui va au-delà de répéter plus ou moins ce qu'avaient déjà dit les traités de l'Antiquité. Alors, peut-être c'est aussi le choix des textes que vous regardez qui donne un peu cette impression, je ne sais pas. Ouais.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que ce soir, j'ai privilégié des textes qui permettaient de montrer le fonctionnement de tout ça dans la tête des gens. Et j'ai volontairement mis de côté la question des expériences pratiques, des observations. C'est un énorme problème qui, comme on sait depuis très longtemps d'ailleurs, est difficile parce qu'on a parfois l'impression de lire un témoignage pris sur le vif, et puis en fait, on le retrouve même par là. Mais c'est vrai, dans l'exemple que vous donnez des vins, des catégories de vins, etc., c'est un exemple qui est très intéressant et qu'on retrouve dans toutes sortes d'autres textes, vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. On a tout à coup, dans un exposé qui est assez connecté sur d'autres textes, on a tout à coup des espèces d'excursus avec des lumières comme ça, ou dans des textes comme le traité d'agronomie de Al-Awam, donc dans Dalou, où aussi il donne beaucoup d'exemples. Dans telle vallée, on fait comme ça, dans telle... Mais c'est des problème que j'ai volontairement laissé de côté ce soir et que je me réjouis de pouvoir voir un peu mieux.
Oui, je voulais vous remercier pour la richesse et l'abondance du dossier que vous nous présentez là. Et peut-être dans le prolongement un peu indirect de ce qui vient d'être suggéré, vous disiez qu'il ne fallait pas confondre les pratiques des paysans, les pratiques paysannes, avec ce que disent les agronomes. Est-ce que vous auriez un exemple ou l'autre du type de rapport qui existe entre le discours des uns et la pratique des autres, ou la pratique mise en discours des autres, si tant est qu'elle soit appréhendable.
Alors, ça c'était une phrase assez générale pour simplement attirer votre attention sur un risque qui existe quand on lit ces agronomes. Si on ne fait pas attention, on se dit, attention, c'est la voix du monde paysan, etc. Donc, en principe, il ne faut pas le faire. Alors, il y a un exemple qui me vient à l'esprit parce qu'il est vraiment très fort et je l'ai travaillé dans un autre compartiment de cette recherche sur les sympathies et les antipathies entre les végétaux. C'est l'exemple du noyer. Alors le noyer, c'est universellement l'arbre maudit, même son étymologie le prouve, son étymologie à la médiévale le prouve, c'est l'arbre qui nuit. Et on voit ça partout et jusque... les traités du 18e, du 19e et dans la rumeur publique toujours aujourd'hui. Et parallèlement à ça, on voit dans les vignes des régions sur lesquelles je travaille comme historien régional, plutôt, constamment des noyés dans les vignes. Chez les agronomes, c'est l'arbre à ne pas mettre dans la vigne. Et dans la pratique actuelle, dans les vignobles actuels, comme dans les vignobles médiévaux, on trouve des noyés qui sont trahis, heureusement, par le fait qu'ils sont... Ils appartiennent à des gens qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les propriétaires du sol. Il y a une séparation entre l'arbre et le sol. Donc on les voit apparaître dans des documents du type cadastre, terrier, etc. Ah, c'est un exemple particulièrement frappant.
Pardon. Est-ce qu'on peut vous inciter à spéculer un peu ? Par exemple, vous dites que vous voudriez mettre tout ce que vous avez présenté là, la description du monde animal vu par les lettrés, aux connaissances de la chronobiologie actuelle. Mais comment vous y prendriez ? Parce que c'est un projet quand même juché de pièges, je sais pas, épistémologiques. Par exemple, est-ce que ce sont les mêmes coqs qui chantent au Moyen-Âge que ceux qu'on observe aujourd'hui ? Ce n'est pas sûr. Est-ce que le noyé dont vous parliez avant est le même noyé au XVIIIe siècle qu'il était au XIIIe ? Alors comment vous y prendriez pour mettre ces deux savoirs en perspective l'un par rapport à l'autre et l'inverse ?
Oui, tout à fait. Alors, je prendrai les choses... Plus à ras du sol, en disant que, bon, d'abord, en admettant tout à fait cette énorme difficulté qu'il y a à identifier les animaux dont on parle, c'est le même problème d'ailleurs avec les végétaux, c'est pas parce qu'on parle de mandragora dans un texte médiéval que c'est nécessairement ce qu'on appelle aujourd'hui une mandragore, etc. Enfin, c'est, bon... Non, ce qui serait intéressant à faire, un travail pluridisciplinaire, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas les compétences, mais ça serait de soumettre ces textes à des zoologues, etc., pour qu'ils puissent dire, bon, ça, ce que ce personnage raconte se vérifie dans les comportements de cet animal d'une manière complète, ou bien ce que ce personnage, cet auteur médiéval raconte... Bon, ça ne tient pas debout, mais il a pu observer, sans le comprendre, tel autre comportement qu'on peut connaître, etc. C'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure qu'en faisant cette tentative, on pourrait la faire sur un ou deux exemples. Pour commencer, on parviendrait peut-être à réfléchir sur des bases plus concrètes ou, entre guillemets, plus objectives à la question de leur... la valeur de leur observation, valeur selon nos critères, évidemment. Ça, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de critiquer ces savoirs par rapport aux nôtres, mais il s'agit plutôt d'observer l'observation, si vous voulez, sur un certain nombre d'exemples. Mais ça, c'est un vœu qui reste pour le moment un vœu. Bon, je fais des lectures, de temps en temps, je rencontre des choses et je me dis peut-être, mais en raison des problèmes que vous souleviez au début dans votre question, il vaut mieux laisser ça à une équipe pluridisciplinaire plutôt que d'essayer de bricoler soi-même.
Alors, j'ai posé une question idiote. Vous n'avez pas parlé d'Ésope. Est-ce qu'Ésope disparaît complètement au Moyen-Âge ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport entre... les théologiens et ce texte qui ensuite va avoir une métamorphose avec La Fontaine.
Oui, voilà. Alors, c'est tout ce domaine des fables, La Fontaine, Arculon, c'est au programme. Bon, j'ai déjà fait quelques repérages, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais c'est encore trop, disons, des dépouillements qui sont encore trop embryonnaires pour que j'ose en faire état, mais c'est effectivement un terrain tout à fait important, à mon avis. Mais je peux rien dire de plus, peut-être dans quelques années. Oui.
Oui, une autre question, si vous le permettez. En vous écoutant, je pensais au cabinet de curiosité, et l'aspect chronobiologique peut très bien être posé pour les cabinets de curiosité, pour la fin du Moyen-Âge, 16e, etc. Et notamment, vous avez développé l'exemple de l'autruche, et l'œuf d'autruche, ça fait partie presque du passage obligé dans un cabinet de curiosité. Est-ce que vous avez travaillé sur le cabinet de curiosité en posant la question, justement, autour de la chronobiologie? Je pensais à l'aspect biblique, la profondeur, peut-être, avec la corne de licorne, etc., les séries d'histoire naturelle ou autre.
En plus, c'est une bonne question pour l'espace Mendès France, hein, parce que le cabinet de curiosité nous intéresse beaucoup, je vous en reparlerai. Ouais. Merci.
Alors, j'ai abordé le problème justement par le biais de l'œuf d'autruche, où j'ai fait quelques prospections dans les publications relatives à ces cabinets de curiosité, mais aussi au trésor de cathédrales, etc., où on en trouve des très intéressants. Mais bon, pour le moment, c'est une série de données. Oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, il faudrait faire les inventaires de ces cabinets de curiosité en réfléchissant à ce qui pourrait être connecté à quelque chose qui les étonne pour des questions de temps. Oui, tout à fait.
Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vais faire quelques annonces. Donc, la prochaine journée d'études organisée par Claude Andreau le 20 mars. Et puis, je vous invite à venir demain écouter nos amis ici présents qui ont posé des questions. Donc, une journée d'études sur l'alimentation professionnelle et périphérique, les hommes et leur alimentation depuis la préhistoire aujourd'hui, de 9h jusqu'à 22h. On a une conférence aussi plénière demain soir. Donc merci à tous et je vous invite aussi à regarder notre site internet qui s'appelle curiositas.org, qui est fait par Dominique Monconduit et puis Pierre Martin. Donc merci beaucoup. Bonsoir.